Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Manuel Bompard, invité de BFM Politique. Monsieur Bompard, l'actualité de ce matin, c'est d'abord cette fusillade à Marseille. Trois hommes abattus à la sortie d'une boîte de nuit, ce qui donne un bilan de 21 personnes victimes de règlements de compte depuis le début de l'année. Rappelons que vous êtes député de Marseille. C'est l'impuissance pour arrêter cette série noire.
C'est d'abord des drames, vous l'avez dit, c'est des meurtres, des assassinats qui se multiplient depuis le début de l'année. Je voudrais vous dire que j'utilise pas le terme règlement de compte parce que je pense que c'est un terme qui n'est pas approprié. Quand vous avez des mères de famille,
que cela a un lien avec le l'expression règlement
de compte. Oui, mais c'est un terme qui n'est pas approprié. Quand vous avez une personne de près de 60 ans qui est assassinée, quand vous avez un jeune adolescent de 16 ans, quand vous avez une mère de famille de 43 ans ce qui est assassiné, c'est pas un règlement de compte,
alors,
c'est un meurtre.
Ce matin, ce sont
et
des
c'est un assassinat.
Discothèque.
Mais même quand c'est des jeunes. Je voudrais vous rappeler que derrière, il y a des familles, il y a des mères de famille, il y a des parents, il y a des enfants, il y a des habitants d'un certain nombre de quartiers, sur ma circonscription, mais de manière plus générale à Marseille, qui ont peur de sortir le soir, qui restent calfeutrés à la maison. Et ça, c'est une réalité concrète. Et face à ça, je déplore pas une impuissance, mais je pense un manque d'investissement dans ce qui devrait, de mon point de vue, être la priorité. La priorité, ça peut pas être seulement d'aller donner des amendes aux jeunes qui viennent acheter un peu de drogue. Je dis pas que c'est bien de le faire. Je dis que si on veut vraiment s'attaquer à cette difficulté, la question qui nous est posée, c'est comment on met des moyens pour remonter les
filières.
Justement,
côté ministère de l'Intérieur, on souligne qu'il y a jamais eu autant de policiers déployés à Marseille. Et pourtant, chaque semaine, on déplore des morts. Alors, vous refusez le mot règlement de compte, ça y ressemble pourtant.
Non, mais
qu'est-ce que vous proposez?
Quand je vous dis que je vous refuse le terme de règlement de compte, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont victimes de ces meurtres ou de ces assassinats qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue aujourd'hui, qui prennent des balles perdues, alors que juste parce qu'ils habitent dans un quartier dans lequel il y a une fusillade. Donc
oui,
voilà pourquoi je
dis qu'il faut être attentif sur ce sujet. Le ministère d'ailleurs a déployé des policiers, a mis des policiers
sur le
terrain.
Moi, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez vous attaquer à cette question, il y a quand même des sujets qu'on peut poser sur la table. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver une arme comme ça à Marseille, ça se trouve pas au supermarché? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le trafic d'armes? Comment on fait pour remonter les filières?
Et donc c'est quoi,
comment
ça se fait que sur il y a une forme de quoi, de laxisme du gouvernement sur ce sujet de Marseille, parce que Bruno le disait, plus de forces de l'ordre, plus aussi d'interpellations, de démantèlement de filières.
Peut-être parce qu'on les met pas au bon endroit, ou en tout cas qu'on les met pas suffisamment au bon endroit. Il faut investir davantage de moyens dans la police judiciaire. Il faut ramener les effectifs de douane qui ont été supprimés sur le port de Marseille aujourd'hui. Vous avez un conteneur sur 10 000 qui est contrôlé. Or, la drogue, elle rentre bien quelque part. Donc, si on veut s'attaquer sérieusement à ce problème, je pense qu'on a besoin de moins de...
C'est un abandon de l'État ?
Non, je pense qu'on a besoin de moins de communication et plus de travail sérieux. Et le travail sérieux, c'est investir dans la police d'enquête, la police d'investigation, remonter les filières.
Je vous donne un exemple. Gérald Darmanin n'en fait pas assez à Marseille pour lutter contre les trafics ?
Oui, je pense qu'il en fait pas assez. Je vous donne un exemple, monsieur Jeudy. Quand il y a eu la guerre, la Russie a attaqué l'Ukraine, on n'a pas eu de problème à dire on va aller geler les avoirs des oligarques russes. Pourquoi on n'est pas capable de s'attaquer aux avoirs des grands trafiquants qui, pour certains, se réfugient à l'étranger et qui sont responsables de ces morts chaque semaine, malheureusement, aujourd'hui à Marseille? Je pense que on fait beaucoup de communication, beaucoup de politique du chiffre et pas assez de politique sérieuse pour s'attaquer à cette difficulté.
Un mot, Manuel Bompard, sur la situation internationale. Le G7 s'est terminé ce matin et le président américain Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine après une annonce majeure vendredi, un feu vert pour la livraison d'avions de chasse américains, des F-16, par ses alliés à l'Ukraine. C'est-à-dire que ce n'est pas les États-Unis directement, mais c'est ceux qui avaient acheté des F-16 qui pourront donc en livrer à l'Ukraine. Question simple, est-ce que vous soutenez cette annonce, ce tabou qui s'est levé de la part du président américain?
Écoutez, c'est une décision américaine. Moi, il m'appartient pas de commenter cette décision américaine. Vous l'avez dit vous-même, ils donnent un feu vert. En même temps, ils disent que c'est pas eux qui vont livrer ces avions.
Ouais, mais c'est important parce que jusque-là, c'était une sorte de ligne rouge. Cette ligne rouge n'existe plus.
Je suis député français. J'écoute ce que dit le président de la République, Emmanuel Macron.
Ben,
j'ai entendu que le président de la République, Emmanuel Macron, pour l'instant, dit qu'il veut faire preuve de prudence sur le sujet.
Oui, mais il annonce quand même une formation, que la France va aider à la formation de pilotes ukrainiens.
J'ai vu ce qu'il avait dit, mais il n'a pas parlé, lui, de livrer, par exemple, des avions français à ce stade.
Vous seriez favorable ?
Non, d'abord, je vais vous dire, sur ce sujet, je pense qu'on aurait davantage besoin de discussions parlementaires. Voilà. Je trouve qu'il y a un problème depuis le déclenchement de ce conflit, c'est qu'on n'a jamais eu un débat à l'Assemblée nationale pour discuter de quelle était notre stratégie, de est-ce qu'on livrait telle ou telle arme. Maintenant, allons sur le fond du sujet, parce que sinon, on discute des annonces de la communication.
Non, mais attendez, c'est important. On est dans un moment, on est sans doute à quelques jours, quelques semaines de la contre-offensive ukrainienne. On a des informations parfois contradictoires sur le fait que Bakhmout pourrait tomber. Il y a une annonce importante qui est la possibilité que l'Ukraine récupère des avions de chasse occidentaux. Est-ce que vous vous en félicitez ? Par exemple, un membre de la NUPES, Raphaël Glucksmann, député européen, disait « il faut faire lever ce tabou ». Est-ce que vous se dites aujourd'hui, ce dimanche, c'est une bonne nouvelle, il faut tout faire pour aider l'Ukraine avant cette contre-offensive ?
Une fois n'est pas coutume, je vais vous dire que je trouve que la position qu'a exprimée le président de la République la semaine dernière sur ce sujet est une position raisonnable, parce que c'est une position prudente. Il faut soutenir militairement l'Ukraine. Il faut soutenir économiquement l'Ukraine. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas devenir co-belligérant. C'est ça la complexité dans laquelle on est.
Les Occidentaux livrant des avions de chasse à l'Ukraine, c'est devenir co-belligérant.
Non, être co-belligérant, ça veut dire envoyer nos propres soldats. Est-ce que personne aujourd'hui n'a proposé ? Maintenant, si je veux pas esquiver le sujet, je veux juste vous dire que je pense qu'il faut sortir de l'illusion que l'issue du conflit aujourd'hui et de la guerre qu'a déclenchée de manière unilatérale la Russie face à l'Ukraine est une issue militaire. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si on s'apprête aujourd'hui à former des pilotes, d'un certain point de vue, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on s'attend à un conflit qui va durer encore pendant plusieurs mois. Non, je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Je vous dis qu'une fois qu'on a dit ça, soutenir militairement, soutenir économiquement, la question qui nous est posée, c'est quelle est l'issue à ce conflit ? Et l'issue, elle est forcément diplomatique.
Oui, mais honnêtement, Manuel, moi, je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites. Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté de la France insoumise sur la question de la livraison des armes.
Attendez.
En mars 2022, c'est au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, c'était « il ne faut pas en livrer ». Ensuite, vous évoluez. Après, vous dites « oui, il faut qu'il y ait un débat au Parlement ». Est-ce que oui ou non, il faut continuer à aider militairement l'Ukraine ?
Mais je vous ai répondu, donc si vous ne m'écoutez pas, je viens de vous dire « oui, il faut soutenir économiquement, il faut soutenir militairement l'Ukraine ». Mais j'ai le droit de vous dire que je considère que faire croire aux gens que l'issue à ce conflit est une issue militaire me paraît être une erreur. Et que si on veut sortir de cette situation, ça passe par l'intensification des relations diplomatiques. Et de ce point de vue-là, par exemple, hier, il y a une bonne nouvelle. Le fait que l'Inde dise qu'elle va mettre son poids pour essayer de parvenir à un accord de paix, c'est une bonne nouvelle. Et en même temps, je trouve qu'on envoie des signaux contradictoires. Que hier, le G7 publie un communiqué pour s'en prendre à la Chine, alors qu'on sait très bien qu'on a besoin aussi des efforts chinois pour essayer d'arriver à un plan d'aide.
Vous êtes plutôt du côté de la Chine face aux autres pays?
Non, je ne suis pas du côté de l'un ou de l'autre, je suis non aligné. Je pense juste que si on veut sortir de cette situation, il faut un accord de paix.
Non aligné, ça veut dire ni États-Unis, ni Chine, Inde? C'est ça.
Ça veut dire rester à équidistance des différentes puissances.
Donc, et vous renvoyer dos à dos.
Mais non, mais c'est pas que je les renvoie dos à dos, c'est que je suis pas aligné sur les intérêts de telle ou telle puissance. C'est la position assez traditionnelle de la France, Benjamin Duhamel. La question qui nous est posée ensuite, c'est comment on fait en sorte qu'on conjugue tous nos efforts pour arriver à une issue qui est forcément une issue diplomatique. Voilà, ça me paraît assez raisonnable de dire ça pour que la guerre s'arrête le plus rapidement possible.
Le soutien de la France à l'Ukraine, il s'est exprimé d'une autre manière ce week-end. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu au G7 qui se tient en ce moment au Japon dans un avion de la République française. Est-ce qu'en voyant ces images, vous vous êtes dit « c'est un beau symbole » ?
C'est surtout une opération de communication, mais pourquoi pas ?
Ça lui a permis de se rendre au G7 et d'échanger avec...
Oui, je pense qu'il aurait pu y aller, mais ça ne me pose aucune difficulté, mais si vous voulez, là je trouve qu'on discute un petit peu des choses qui sont un peu anecdotiques, excusez-moi de vous le dire. Si on veut sortir de cette situation, je rappelle que c'est un conflit dans lequel il y a déjà...
C'est anecdotique de permettre au président ukrainien de se rendre au G7 pour
Non, mais je vous ai dit que ça ne me posait pas de difficulté, mais je veux dire, on parle d'un conflit militaire dans lequel il y a des centaines de milliers de morts. La question qui nous est posée, c'est comment on y met un terme le plus rapidement possible. Et pour y mettre un terme le plus rapidement possible, personne ne peut considérer que ça terminera ni par une victoire militaire de la Russie, ni par une victoire militaire de l'Ukraine. Donc il faut construire un plan de paix. Et construire un plan de paix, ça nécessite d'intensifier nos relations diplomatiques et de faire en sorte de pouvoir le faire avec l'ensemble des puissances.
Ça sert aussi à ça, le G7, justement. Fait que Volodymyr Zelensky aille au G7... fuse dans l'avion de la République française, ça sert à bâtir éventuellement des hypothèses de paix.
Le G7, c'est un club du passé, un club oligarchique. qui vise à contourner ce qui est normalement la règle en matière de législation et de relations internationales, c'est-à-dire l'ONU, et dans lequel il y a un certain nombre de pays qui sont évacués, alors qu'ils peuvent jouer un rôle majeur pour construire ce plan de paix. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on doit intensifier et discuter avec tout le monde pour faire en sorte de pouvoir sortir le plus rapidement possible de cette guerre. Voilà, il me semble que c'est une position raisonnable, et j'attends du alors, président de la République qu'il y travaille.
Une toute dernière question pour que les choses soient très précises pour ceux qui nous regardent. Oui. Si, dans les jours et dans les semaines qui viennent, la France devait envoyer des avions, par exemple, des Mirage 2000, est-ce que la France insoumise y serait favorable?
Ben moi, ce que je demande, c'est que s'il doit y avoir un changement de doctrine de la France sur ce sujet, que ça donne lieu à un débat à l'Assemblée nationale.
D'accord.
Ça me paraît assez
mais
simple.
Le débat n'empêche pas de dire si on y est favorable ou pas.
Ben, oui, mais le débat, il permet de disposer de l'ensemble des informations, de quelle est notre stratégie, de pourquoi on en a besoin, de pourquoi on n'en a pas besoin. Moi, je dispose pas des éléments de l'état-major, du ministère de la Défense. Bon, et si on a besoin d'un débat, c'est pour pouvoir prendre une décision qui soit une décision éclairée. Et ça me paraît quand même normal, et je pense que les gens qui nous écoutent le comprendront, qu'en matière de politique internationale, si on doit s'engager encore plus avant au soutien à l'Ukraine, qu'on puisse au moins en débattre au Parlement.
Manuel Bompard, ce matin dans les colonnes du JDD, les patrons des Républicains présentent leur plan pour réguler l'immigration, deux propositions de loi, possibilité d'organiser un référendum sur ce sujet, double peine, droit du sol restreint. Une majorité de Français, c'est ce que montrent tous les sondages, veulent une politique plus dure, plus restrictive sur les sujets migratoires. Les LR, ils sont en phase avec l'opinion?
Non, je pense que les LR visent à faire oublier le plus rapidement possible leur division sur l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est l'actualité sociale et notamment cette mobilisation contre la réforme des retraites. Et vous avez vu que les Républicains se sont divisés sur le sujet et donc ils cherchent à déporter le débat.
C'est quoi, ils essayent de faire diversion ?
Oui, bien sûr, ils essayent de faire diversion. Aujourd'hui, le problème du pays, excusez-moi de vous le dire, c'est les prix qui ne cessent d'augmenter et le pouvoir d'achat qui baisse et des gens qui tirent la langue. Il y en a plus de 40% qui disent qu'ils font des sacrifices aujourd'hui.
Le problème du pays, c'est la mobilisation sur la réforme. Sur le fond de leur mesure, est-ce que voilà, vous dites c'est très dur, la droite se rapproche des propositions de celles
du RN ? C'est
pas
qu'elle se rapproche, c'est qu'elle reprend copier-coller les propositions qui étaient celles du Rassemblement National et de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle. Voilà, et qui sont, excusez-moi de vous le dire, des absurdités. Considérer que le problème de l'immigration aujourd'hui, c'est l'aide médicale d'État, c'est faire totalement obstacle à quelque chose d'assez élémentaire, c'est que quand vous avez des gens sur votre territoire, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'en aient pas, s'ils sont porteurs d'un virus, il vaut mieux les soigner.
Il faut restreindre cette aide
médicale. Oui, mais sauf que si vous ne soignez pas les gens, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'en aient pas sur le territoire national, bah après les virus, ils vont sur quelqu'un qui a des papiers ou qui n'en a pas. Vous savez, le virus, il se renseigne pas trop pour savoir si les gens ont des papiers ou pas. Tout ça est absurde. De la même manière, quand ils disent qu'il faut pouvoir désobéir à un certain nombre de règles internationales ou européennes, avec un certain nombre de conventions qui régissent, par exemple, pour donner un exemple, le droit des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire que le problème de l'immigration.
Aussi, Manuel Bompard, voilà. Vouloir déroger à certaines dispositions.
Oui, la désobéissance européenne sur d'autres sujets.
C'est intéressant parce que quand nous disons qu'il faut déroger en matière économique à un certain nombre de règles européennes, on nous dit oh là là, vous êtes anti-européen, etc. Et là, vous avez les Républicains qui, eux, proposent de déroger sur tous les éléments qui sont relatifs au respect des droits de l'homme. Bah, excusez-moi de vous le dire, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on déroge aux règles relatives au respect des droits de l'homme parce qu'elles ne sont pas tombées de nulle part et qu'elles portent quelque chose. Quand vous avez des enfants qui arrivent sur le sol national, oui, il faut s'en occuper, qu'ils aient des papiers ou pas. Ouais. Bah, moi, je suis attaché à ce principe.
Sur l'immigration, il y a eu une récente étude de l'Institut BVA avec la Fondation Jean Jaurès qui a marqué les esprits puisqu'elle montrait une évolution de l'électorat de gauche sur cette question et révélait que près d'un électeur de gauche sur deux estime qu'il y a trop d'immigrés en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Est-ce que, selon vous, il y a trop d'immigrés en France ou pas?
Non, je pense que encore une fois, on essaye à longueur de journée de faire croire aux gens dans ce pays que le problème c'est l'immigration. Le problème de ce pays aujourd'hui, c'est pas l'immigration.
Donc, personne, quand vous, dans votre circonscription, personne ne vous parle jamais d'immigration?
Mais je dis pas que personne ne m'en parle, mais c'est pas parce que les gens m'en parlent que je suis obligé de leur dire qu'ils ont raison de penser que c'est ça le problème. Je pense que le problème n'est pas le problème de l'immigration. Il peut y avoir, comme partout, des difficultés liées à telle ou telle situation. Mais là, la difficulté auxquelles sont confrontés les gens aujourd'hui, quand vous avez des gens qui se battent pour augmenter leur salaire, parce que le salaire nominal dans ce pays, il a augmenté depuis un an d'à peu près 4,5%, alors que l'inflation a augmenté de 6%. Le problème aujourd'hui de ces gens-là qui voient pas leur salaire augmenter suffisamment, c'est pas l'immigration.
Mais quand vous avez 500 000 étrangers qui sont inscrits au chômage aujourd'hui,
Bruno, laissez juste Bruno poser une question.
Pour l'instant, c'est moi qui étais en train de parler. Quand vous allez à l'hôpital, le problème du service public de santé, santé qui exsangue aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Quand vous allez à l'école, le problème des classes qui sont surchargées aujourd'hui, c'est pas l'immigration. Donc je suis désolé de vous le dire et je réponds donc à votre question. Moi, j'essaye de convaincre les gens de pas se tromper.
Et quand vous avez, monsieur Bompard, 500 000 personnes étrangères qui sont au chômage en France et que vous voulez en faire rentrer de nouvelles, vous pensez pas que...
Mais je suis pas en train de vous dire que je veux en faire rentrer de nouvelles. La question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les gens qui partent aujourd'hui, ils n'aient pas besoin de partir. C'est ça la question qui est posée. Parce que sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez.
Ça n'aide pas à l'intégration des étrangers qui vivent sur notre territoire.
Je suis en train de vous dire,
qui vivent sur le territoire que de ne pas vouloir régler le problème du chômage des 500 personnes. Et si vous allez en ajouter de nouvelles.
Non, mais attendez. Moi, je suis pour régler le problème du chômage. Je ne sais pas pourquoi vous me faites dire ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous croyez que vous allez vous attaquer sérieusement à cette difficulté en multipliant les suppressions gadgets type on va supprimer l'aide médicale d'État, etc. Comme si les gens qui partent aujourd'hui de leur pays, ils viennent parce qu'ils pensent qu'ici, ils vont être soignés. C'est absurde.
Sur le sujet de l'immigration, à votre place, François Ruffin, il y a quelques semaines, disait « Moi, je ne suis pas favorable à des filières d'immigration de travail. Je ne veux pas qu'il y ait davantage d'immigrés qui viennent travailler. Je ne veux pas organiser une filière comme celle-là. » Est-ce que vous êtes d'accord avec François
Mais moi, je ne suis pas pour des filières d'immigration par le travail. Ça n'a jamais été notre position. La question qui nous est posée, j'étais en train d'essayer de vous répondre de manière sérieuse, c'est comment on fait en sorte que les gens qui partent aujourd'hui n'aient pas besoin de partir. Donc comment on s'attaque aux politiques qui les mettent sur la route. Donc comment on s'attaque à la question du changement climatique, parce que les réfugiés climatiques, ça va monter en puissance de manière très importante dans les prochaines années. Comment on s'attaque aux conflits militaires, comment on fait en sorte de mettre un terme à un certain nombre d'accords économiques entre l'Union européenne et un certain nombre de pays pauvres aujourd'hui qui appauvrissent les économies de ces pays pauvres. C'est ça la question qui est posée. Après, une fois que les gens sont sur la route, une fois que les gens arrivent sur le territoire national, bah vous les accueillez dignement, vous faites en sorte que leurs enfants puissent être éduqués, vous faites en sorte qu'ils dorment pas dans la rue. Il me semble que les gens, aujourd'hui, dans ce pays, bien sûr qu'ils peuvent parfois être confrontés à des difficultés, mais en même temps, ils comprennent l'idée qu'il faut faire preuve aussi d'humanité.
Donc, il ne faut pas durcir. Par exemple, si vous étiez au pouvoir, quand un clandestin est touché par ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, est-ce qu'il faut la faire appliquer? Est-ce qu'il doit quitter le pays? Ou est-ce qu'au contraire, vous dites qu'il faut régulariser
pourquoi les OQTF ne sont pas appliquées aujourd'hui? Pourquoi?
Elles ne sont pas appliquées parce que les pays, souvent, ne veulent pas accepter.
Donc, qu'est-ce que vous allez faire quoi? À part essayer de discuter avec les pays.
Par exemple, les républicains dans les colonnes du JDD disent il faut qu'on corrèle l'aide au développement à l'acceptation des pays.
Et vous pensez que c'est très intelligent de faire ça? Vous pensez que des pays aujourd'hui, dans lesquels il y a des difficultés économiques, vous allez régler le problème en leur disant on vous coupe l'aide au développement pour faire en sorte que vous puissiez avoir un modèle et un système économique qui fonctionne mieux? Tout ça est absurde, ça n'a pas de sens. Donc, il faut s'attaquer aux causes qui génèrent les migrations. Après, une fois que les gens sont sur le territoire national, il faut faire en sorte de les prendre en charge dans des bonnes conditions. Vous n'avez pas d'autre option que celle-là. Donc, je crois que les républicains, en réalité, font de l'agitation. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils déposent une proposition de loi constitutionnelle, alors que vous savez très bien qu'une proposition de loi constitutionnelle, pour qu'elle puisse être adoptée en France, il faut qu'il y ait un référendum. Et ils n'ont pas le pouvoir de convoquer un référendum. Donc, il faut de l'agitation pour changer de sujet et essayer de faire oublier leur division sur la réforme des retraites.
Une question de Pauline sur l'écologie.
Oui, parce que vous parliez à l'instant de la crise climatique. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, il en parle aussi ce matin et il explique la façon dont le pays doit s'adapter à des événements extrêmes. Il présente un scénario qui est pessimiste, qui fait froid dans le dos, plus 4 degrés à horizon 2100. Vous avez souvent dénoncé le déni climatique du gouvernement. Est-ce que vous dites enfin un peu de lucidité?
Vous avez vraiment très envie que je leur donne des bons points, mais
on vous pose des questions.
Ça,
c'est certain que je vais vous répondre comme je veux. Le déni climatique, il est toujours là. Enfin, le sujet, c'est pas de dire qu'il y a un scénario à 4 degrés et de s'en inquiéter.
Ça marque les esprits, c'est de nature à marquer les esprits.
Oui, d'accord, mais moi, marquer les esprits, ça fait longtemps que les esprits sont marqués. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et ça vous aura pas échappé que ça fait maintenant 6 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, que sa politique a été pointée du doigt à plusieurs reprises, notamment on lui a reproché une inaction climatique et environnementale. Et de ce point de vue-là, on a régulièrement des sorties pour dire c'est très important l'écologie.
La condamnation, elle concernait les années, c'est ce qu'il répond.
Oui,
mais
le Conseil d'État, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines de ça, le Conseil d'État a à nouveau pointé du doigt la France en disant attention à votre inaction en matière climatique et environnementale. Voilà. Donc maintenant, sur le fond, parce que la question, ce n'est pas de savoir s'il y a déni ou pas déni, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne un exemple. Dans les discussions budgétaires qui ont eu lieu au mois de décembre dernier, les oppositions, la NUPES en particulier, nous avions fait voter des amendements. Ils avaient été votés par une majorité des députés à l'Assemblée nationale pour consacrer 10 milliards d'euros à la rénovation thermique des logements pour l'efficacité énergétique. On avait fait voter un amendement de 3 à 4 milliards d'euros pour investir dans le développement des lignes ferroviaires. Le gouvernement est arrivé, il a fait 49-3, il a supprimé l'ensemble de ces amendements. Ça, vous voyez, c'est pas du déni ou de la prise de conscience, c'est de la réalité concrète. Vous disiez
que la filière, sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, la filière n'était pas prête à accueillir autant
d'investissements. Mais d'accord, mais ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir, monsieur Duhamel.
Non, mais c'était la réponse.
Bon, et franchement, prenons juste cet exemple-là. La rénovation thermique des logements. Excusez-moi, donnez-moi un argument, essayez de me faire comprendre comment ça se fait qu'on n'avance pas plus vite sur ce sujet. C'est un sujet qui est gagnant pour tout le monde. Vous décidez d'investir dans la rénovation thermique des logements, vous avez des difficultés sociales liées à des passoires énergétiques qui s'estompent. Vous avez du boulot pour le secteur du bâtiment, ça crée des emplois, ça crée du travail. Vous avez un impact positif sur le climat. Pourquoi on ne va pas plus vite sur ce sujet ?
Il faut des moyens sur ce sujet, parce que ça coûte extrêmement cher et que les particuliers n'ont pas tous les moyens
Donc il faut des moyens, donc il faut investir sur le sujet.
Pourquoi une question de Bruno, les annonces de demain.
Manuel Bompard, Elisabeth Borne présente demain ses mesures pour la planification écologique afin de baisser les émissions de CO2. Son entourage dit vouloir demander un petit peu aux petits et beaucoup aux gros. Ça va dans le bon sens ou pas ça ?
On va voir ce que ça veut dire.
Ça va vous plaire, cette phrase, un petit peu aux petits, beaucoup aux gros.
Moi, je chat est chaudé quand l'eau froide. Hein. Donc, je verrai quelle est la nature réelle des propositions qui sont faites. Mais oui, en matière de changement climatique, il est évident que les plus gros pollueurs, les plus riches de ce pays sont ceux qui doivent contribuer le plus. Ça me paraît être une évidence. Donc, comment on fait ? On met en place des politiques de sobriété énergétique et on s'attaque en particulier aux consommations qui sont ostentatoires. Par exemple, donnons un exemple. En matière d'eau, on sait qu'on va être confronté à des difficultés de sécheresse. Ça commence maintenant. On est en avance par rapport aux années précédentes. Il faut s'attaquer aux surconsommations.
Est-ce qu'il faut, par exemple, interdire les piscines individuelles ?
Non, mais prenez pas. C'est toujours le même sujet. Dès qu'on commence à parler de ça, on essaye. Oui, mais je vais donc vous répondre. On essaye de prendre le sujet qui va faire peur à tout le monde. Donc je ne vais pas tomber dans votre piège.
Mais vous me répondez pas.
Si je vous réponds.
Il ne faut pas les interdire.
Je vous propose quelque chose. Je vous dis qu'il faut mettre en place une tarification progressive sur l'eau. C'est-à-dire que les mètres cubes qui sont indispensables à la vie, ceux qu'on a besoin pour se brosser les dents, boire, se laver, ceux-là, ils doivent être gratuits. Et puis ensuite, quand vous allez consommer davantage.
Sont menées dans quelques
villes. Voilà, il y a un certain nombre de communes qui ont mis en place.
Dans le plan
on en est où ? Donc il faut mettre ça en place, par exemple.
La tarification progressive.
Et voilà, donc il faut mettre ça en place, par exemple. Ça, c'est une bonne mesure. Voilà, pour vous donner un exemple.
Interdire les piscines.
Mais je ne vais pas vous dire qu'on va interdire demain l'ensemble des piscines individuelles. D'accord. Mais on peut s'attaquer, par exemple, quand il y a des mesures de restriction d'eau, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si c'est d'abord les familles qui vont être coupées ou si c'est d'abord les golfs, par exemple. Ça peut être un sujet. On peut en parler, par exemple. Est-ce qu'à un moment, si on veut être sérieux sur la question du changement climatique, il va falloir se poser la question de comment on fait une transition de notre modèle agricole pour qu'il soit respectueux de nos objectifs environnementaux et climatiques. Donc, il faut faire en sorte qu'on utilise moins d'eau. Donc, il ne faut pas faire des méga bassines, pour donner un exemple concret. Vous voyez, ça, ce n'est pas de la prise de conscience. On va dans la mauvaise direction, malheureusement, sur ce sujet. Quant à la planification écologique, j'attends de voir comment elle va se décliner. Si on veut avoir ces objectifs de réduction qui soient respectés, il faut les décliner secteur par secteur. Et c'est ça que j'attends de la planification écologique que nous appelons de nos vœux depuis des années et des années.
Manuel Bompard, la semaine a été marquée par un débat autour de la violence en politique, du climat actuel, des responsabilités des uns et des autres. On va essayer de prendre les choses point par point. D'abord sur la question de l'ultra-droite. À Annecy, le parquet a ouvert une enquête suite à une manifestation non autorisée de militants d'ultra-droite. Ils étaient une quarantaine. La manifestation qui fait suite à d'autres manifestations. Il y a eu celle du 6 mai, il y a eu celle dimanche dernier de l'Action française. Mais pour Marion Maréchal, elle était vendredi matin au micro de BFM TV. Elle dit que c'est une menace qui est dérisoire. Qu'est-ce que vous répondez à Marion Maréchal alors que là, on voit en l'espèce les images de cette manifestation à Annecy ?
Ce n'est pas une menace dérisoire. La preuve, c'est des gens qui menacent. C'est des gens qui incendient des domiciles. Je pense à celui du maire de Saint-Brévin, en Loire-Atlantique.
On ne sait pas si...
Les menaces, on sait d'où elles viennent,
effectivement.
Alors, vous avez raison. Sur l'incendie, on n'a pas encore déterminé qui c'est. Par contre, ceux qui ont attaqué trois militants de la France insoumise à Lyon... cette semaine, c'était bien des gens d'extrême droite. Voilà, pour vous donner un exemple concret. C'est des gens qui frappent, c'est des gens qui menacent, c'est des gens qui tabassent dans la rue, c'est des gens qui lynchent. Voilà. Et donc, c'est une menace extrêmement dangereuse et contre lequel, malheureusement, le pouvoir en place a pendant de nombreux mois et de nombreuses années, fait comme si ça n'existait pas. Et même pire, a eu un agenda politique qui était un agenda politique de banalisation de l'extrême droite et de diabolisation de la NUPES. Bah, quand Monsieur Darmanin dit à Madame Le Pen qu'elle est trop molle, ou quand Elisabeth Borne, la semaine dernière, dit que la NUPES est plus dangereuse que le Rassemblement national, elle contribue à banaliser les idées du Rassemblement
national. Là, en l'espèce, on parle de manifestations qui, d'ailleurs, pour certaines, ont été... Enfin, il y avait une volonté d'interdire.
Pour certaines,
oui. Avec des arrêtés préfectoraux qui, parfois, étaient cassés par la justice administrative. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement de plus que de dire, quand il y a ce type de manifestation, on essaye de les interdire, mais si derrière la justice ne veut pas, ben c'est le droit qui s'applique.
D'abord, avant qu'il y ait la volonté exprimée par le gouvernement de les interdire, il y a eu un certain nombre de manifestations qui, elles, n'avaient pas, il n'y avait pas eu d'arrêté d'interdiction. Hein. C'est ensuite parce que le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, a été interpellé sur le fait qu'il y a eu des manifestations dans Paris de l'ultra-droite, qu'ensuite il a dit on va essayer de prendre une mesure pour les interdire. Et il y a la justice qui fait respecter un certain nombre de règles constitutionnelles, je le comprends. Bon, donc je dis juste que il me semble que pendant des mois et des mois, le pouvoir en place a contribué à banaliser les idées d'extrême droite, à faire comme si elles n'étaient pas dangereuses. Et je pense qu'il porte une responsabilité dans la montée de ces tensions. Voilà, tout simplement.
On parlait de ce qui s'est passé à Saint-Brévin à l'instant. Cette semaine, le maire de Saint-Brévin a confirmé que sa décision de démissionner était définitive. Rappelons que sa maison a été incendiée, qu'il avait subi des pressions, une opposition extrêmement virulente contre l'installation d'un centre pour demandeurs d'asile. Suite à cette affaire, le gouvernement a annoncé un renforcement des sanctions contre ceux qui s'en prennent aux élus. Est-ce que ces annonces sont suffisantes selon vous? Est-ce que ça va assez loin pour régler ce problème ou est-ce qu'il faudra faire plus?
Non, mais d'abord, il faut regarder ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que le maire de Saint-Brévin, c'est pas seulement moi qui le dit lui-même, a été abandonné. Oui. Il a été abandonné parce que le gouvernement a fait preuve de lâcheter sur le sujet.
C'est ce qu'il a dit, et il dit que son cas, il espère maintenant que voilà, son cas a été mis sur le devant de la scène, que ça va pouvoir faire bouger les choses.
Oui, mais c'est important de souligner une responsabilité. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y aura une manifestation mercredi à Saint-Brévin en soutien, en solidarité avec ce maire et contre les menaces de l'extrême droite. Elle aura lieu mercredi après-midi.
Mais juste sur cette proposition ensuite, de renforcer les sanctions pénales, il y a d'autres mesures, une sorte
de aligner ces sanctions pénales sur celles qui visent les personnes qui atteignent au personnel en uniforme. C'est aussi créer des référents atteintes aux élus dans les commissariats et les gendarmeries. Est-ce que pour vous, c'est suffisant? Est-ce qu'il faut...
Vous avez donné un certain nombre d'exemples. On verra ce qu'il y a dans le fond de la loi. On verra quelles sont les mesures et les dispositions précises. En matière de loi sécuritaire, le gouvernement les a collectionnées ces dernières années.
Non, mais attendez, là, en l'espèce, c'est des mesures assez précises.
Est-ce non,
que... j'attends de voir. Est-ce que vous pourriez les citer?
Non, mais je connais les ben, je... si c'est pour renforcer... dire que quand on s'attaque à un élu, on doit être sanctionné, oui, ça me paraît être une évidence.
Voilà.
Bon, mais j'attends de voir précisément ce qu'il y aura dans ce texte de loi. Pour le reste, sur ce cas précis, clairement, le gouvernement a fait preuve d'une lâcheté totale. Voilà. Et pourquoi? Parce que ce maire s'est battu pour mettre en place ce centre d'accueil pour les demandeurs d'asile dans sa commune, qu'il a été confronté à une opposition de l'extrême droite et le gouvernement a préféré considérer que c'était lui qui allait faire le boulot et pas le gouvernement lui-même. Voilà ce qui s'est passé. À un moment, il faut que ça soit dit aussi.
Manuel Bompard, on va continuer à vous interroger sur cette question des violences et du climat politique, mais juste avant, il est midi et demi, la séquence des trois photos, vous allez voir s'afficher juste derrière sur ce mur, trois photos différentes, il faut en choisir deux. Première photo qui fait référence au Festival de Cannes, la seconde, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et la troisième, l'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Première question que vous choisissez.
Les Jeux Olympiques.
La polémique enfle sur le prix des billets pour les JO, jugé inaccessible pour des Jeux pourtant présentés comme populaires. La fête est gâchée?
Je crains qu'elle le soit si rien ne change de ce point de vue-là, parce que moi aussi j'ai vu le prix des billets. On est à un niveau qui empêche de participer toute personne qui n'a pas des moyens extraordinaires. Donc oui, je pense que ça pose un certain nombre de difficultés. Il n'y a pas que le prix des billets qui risque de gâcher la fête.
Parce que quand on regarde la différence des prix avec Londres n'est pas forcément
énorme. Il y a les prix les plus élevés, puis quand on clique, il y a des prix moins élevés.
C'est pour ça que ça pose pas problème. Et j'allais vous dire, il y a pas que le prix des billets qui risque de gâcher la fête.
C'est-à-dire
Je pense que il y a eu dans la construction et la mise en place de ces Jeux Olympiques un certain nombre de difficultés sociales dans les chantiers de construction en particulier. Il y a eu des morts au travail. Il y a voilà, je voudrais juste
aussi qu'on les oublie pas. Il n'aurait pas fallu les organiser à Paris, ces JO.
Je pense que ça mérite discussion, en effet.
Vous êtes contre les jeux de
paris? Non, mais maintenant, ils sont là. Je vais pas vous dire autre chose qu'ils sont là. On va pas les annuler. Bon, les investissements
ont été faits. Fait boycott,
mais je pense qu'il va falloir, mais je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant sur comment les investissements qui ont été faits sur ces Jeux Olympiques pourront ensuite profiter à un certain nombre de territoires populaires, notamment en Île-de-France, qui en ont bien besoin.
Deuxième photo.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes a été marqué par une polémique sur l'opportunité de projeter en ouverture le film de Mai Wen, Jeanne Dubarry, avec Johnny Depp, accusé de violence conjugale par son ex-épouse. Est-ce que c'est une polémique justifiée ou est-ce qu'il faut que la liberté artistique prime?
Non, je comprends quand même cette polémique. Je la comprends. Après, j'étais pas au courant en fait qu'il y avait eu cette polémique, mais je comprends qu'elle ait pu exister.
Vous irez voir le film?
Pardon?
Vous irez voir le film, Jeanne Dubarry?
Non.
Parce que il y a Johnny Depp dans le film?
Non, pas forcément pour ça, mais parce que j'ai pas forcément envie de le voir, tout simplement.
Parce que ça concerne la royauté, que c'est la France insoumise, c'est pas trop.
Non, vous savez, ça m'arrive de voir des films sur la royauté pour voir à ce qu'on a réussi à échapper en France depuis la Révolution française.
Manuel Bompard, autre exemple frappant de ce climat de violence, on en parlait juste avant, c'est évidemment l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Jean-Luc Mélenchon s'est vu reprocher cette semaine une forme d'ambiguïté dans ses réactions en disant avoir été sommé, on va voir apparaître son premier tweet, de se prononcer par des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression raciste. Alors il a exprimé sa compassion à l'égard de celui qu'il appelle le chocolatier trogneux, mais a demandé d'en faire autant pour nos amis agressés. Pourquoi toujours ces circonvolutions, ces oui mais quand il s'agit de condamner
de
la violence?
Il n'y a pas de oui mais, pourquoi? Parce
vous ne voyez pas de circonvolution?
Il n'y a pas de mais dans le tweet là, mais bon, je ne sais pas où vous l'avez lu, mais relisez-le peut-être. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une hypocrisie qui est une hypocrisie totale. Parce que y a des indignations à géométrie variable. Parce que quand un syndicaliste de l'entreprise, je vais vous répondre. Parce que quand un syndicaliste de l'entreprise Verbaudet est frappé comme il l'a été cette semaine, j'attends moi encore la réaction du président de la République. Est-ce que vous allez lui poser la question de savoir combien de temps il va attendre pour réagir comme vous l'avez fait avec Jean-Luc Mélenchon?
Mais attendez, juste Verbaudet, on en a parlé sur cette antenne.
Oui.
D'ailleurs.
Oui, mais là vous m'interrogez sur Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais je pose une question très simple.
Moi, je vous réponds très simplement.
L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron.
Elle est intolérable. On l'a dit, tout le monde l'a dit.
Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon l'a dit? Cette réaction dit qu'il est sommé de réagir. Dit tout de suite qu'il aimerait qu'il y ait autant de réactions de part. Pourquoi ne pas simplement condamner, franchement?
Mais tout simplement Benjamin Duhamel, parce qu'il s'était pas écoulé 30 minutes depuis cette agression que vous commenciez déjà sur vos plateaux de télévision à dire on attend encore la réaction de Jean-Luc Mélenchon, comme s'il y allait avoir une ambiguïté de quelque sorte que ce soit sur le fait que Jean-Luc Mélenchon n'était pas d'accord avec le fait qu'on agresse qui que ce soit dans ce pays pour répondre à des conflits politiques. Mais ne changez pas de sujet, je vous ai posé une question. Pourquoi vous posez pas la question au ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, ou à monsieur Macron, par exemple, pourquoi, alors que ça fait maintenant 4 jours, ils n'ont pas réagi face à l'agression dont a été victime le syndicaliste de Verbaudet?
Il y a une enquête qui a été ouverte.
Oui, mais là, vous m'avez interrogé sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vous interroge sur la réaction d'Emmanuel Macron.
Souffrez qu'on vous pose des questions sur Gérald Darmanin. Et qu'ensuite, on vous parlera de Verbaudet.
Oui. Ben, moi, donc, je suis en train de vous dire que vous avez donc une indignation à géométrie variable.
Quelle indignation à géométrie
variable? Parce que vous êtes en train de m'interroger.
On a parlé
en disant que Jean-Luc Mélenchon a mis une heure pour faire un tweet.
On a parlé des deux sujets.
Je suis en train de vous dire que ça fait.
Je vous pose la question des ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon quand il s'agit de ce type de violence.
Mais il n'y a aucune ambiguïté. Arrêtez de répéter ce mot-là. Ça fait depuis maintenant plusieurs jours, tout au long de la semaine, que vous avez sali le mouvement de la France Insoumise que je représente.
Pourquoi
ici? Parce que vous faites comme si la France Insoumise, elle avait une responsabilité dans telle ou telle violence, alors que la France Insoumise, elle a toujours eu un principe extrêmement clair. Elle combat durement le gouvernement. Mais elle l'est fait par les outils démocratiques et jamais elle n'a eu recours à la violence.
Il n'y a jamais d'ambiguïté quand Thomas Porte pose avec un ballon de football à l'effigie d'Olivier Dussopt, quand Christophe Prudhomme, un élu de la France Insoumise, scande sous les fenêtres de Renaissance.
J'étais sûr que vous alliez me faire la collection.
Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on va recommencer. Il n'y a pas parfois des ambiguïtés?
Non, il n'y en a strictement aucune, monsieur, parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre la différence entre ce qui est de l'ordre du symbole, du chamboule-tout, de la culture populaire,
c'est
de
ça
la dénonciation de la monarchie et des monarques et de la violence réelle, alors vous avez un problème. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, si vous n'êtes pas capable de comprendre que quelqu'un qui écoute un responsable politique, il a un cerveau et qui comprend très bien qu'il ne faut pas s'agir comme une telle personne, j'ai un problème pour vous.
Procureur. Mais justement, monsieur Bompard, alors le procureur d'Amiens, le procureur d'Amiens, qui, donc vous le savez, les suspects dans cette agression ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. Que dit le procureur d'Amiens? On le voit à l'écran. Il faut que cesse le bal des hypocrites, ceux qui le matin jurent qu'ils sont contre les violences, mais qui, depuis des semaines, par des propos ambigus, allument des mèches et diffusent des bombes à retardement dans la tête des individus peu structurés. Vous vous sentez visé ?
Non, pas du tout. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un procureur, donc il connaît la justice, vous êtes d'accord ? Hein ? L'incitation à la violence, l'appel à la haine, c'est des délits, vous êtes d'accord ? Donc si quelqu'un ici considère que tel ou tel acte de tel ou tel élu de la France insoumise est une incitation à la violence, qui porte plainte et que la justice tranche sur le sujet. Mais ils ne le font pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils perdront, parce que c'est ridicule.
Mais Bompard,
parce qu'aucun
violence
d'entre nous n'a jamais appelé ou incité à la violence. Donc je ne vous laisserai pas.
Mais vous incitez à la violence symbolique, en tous les cas. Et la violence symbolique, ça finit aussi par de la violence tout court.
Non, pas du tout.
C'est ce qui s'est passé à Amiens.
Non, pas du tout. Parce que vous connaissez les motivations des personnes qui ont attaqué ce chocolatier.
Elles se sont un peu expliquées sur les antennes.
Et elles ont fait référence à des propos qui avaient été tenus par des membres de la France Insoumise. Mais pourquoi vous dites ça ? Comment vous pouvez dire ça ?
Monsieur Bompard,
il ne faut pas dire
Monsieur
n'importe
Bompard,
quoi.
Quand on reprend des slogans,
oui.
Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on a recommencé. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a un lien direct. L'idée, c'est de dire
que
c'est ça
ce
peut...
que vous faites.
Non, l'idée, c'est de dire que ça peut désinhiber certains qui, derrière, se disent qu'au fond, si on reprend ce type de slogan-là, cela peut aboutir de la violence physique.
Pas du tout, monsieur. Quand vous avez dans la culture populaire des par exemple des chamboule-tout dans lequel on met les visages des puissants
donc
sur des boîtes de conserve.
Laissez-moi terminer.
Vous m'avez posé une question. Quand vous avez des chamboule-tout dans lequel vous mettez des visages de puissants sur des boîtes de conserve et vous envoyez des balles de tennis, ça ne veut pas dire que vous appelez à les violenter. Au contraire, ça joue aussi un rôle par ailleurs de catharsis de la violence qui existe dans la société, qui s'exprime aussi par des moyens comme celui-ci. Donc le procès que vous êtes en train de faire à la France insoumise, c'est un procès odieux. Moi, je juge les gens sur des actes.
Si
depuis le début de la semaine, je regarde votre antenne, ça m'arrive malheureusement. Et est-ce que
pourquoi
je lis
parce que
depuis le début de la semaine, vous êtes en train de salir. Si à la limite vous salissiez que Jean-Luc Mélenchon ou moi-même, mais la France insoumise, c'est 360 000 personnes qui se battent au quotidien pour changer la société.
Monsieur Bompard,
pour essayer de défendre des idées qui sont des idées différentes.
Pardon,
et le procès que vous faites à notre égard est insupportable. Et donc je vous le dis franchement, les yeux dans les yeux.
Eh bien, les yeux dans les yeux. Pardon d'être un peu solennel. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on salit la réputation.
Vous allez me laisser le dire.
On vous pose des questions. Je vais prendre un autre exemple. Quand de la même manière, on est aujourd'hui le 21 mai, quand Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas dit un mot sur ce policier qui, le 1er mai, a été touché par un cocktail Molotov, est-ce que c'est normal qu'on vous pose la question de savoir pourquoi,
c'est pas normal.
Sur ce sujet, il est silencieux ?
Mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas silencieux sur ce sujet. Il a déjà
vous l'avez entendu ?
Mais Jean-Luc Mélenchon a dit à de multiples reprises, si vous ne l'avez pas entendu, je ne sais pas quoi faire pour vous, Benjamin Duhamel, a dit à de multiples reprises que la violence physique n'était en aucun cas et ne serait jamais une manière de régler des différends politiques. Je veux dire, si c'est pas suffisamment clair quand ça a été dit une fois, deux fois, trois fois, il peut le dire quatre fois, mais manifestement, vous avez pas envie de le comprendre. Donc, encore une fois, je trouve ça surprenant que vous posiez pas la question aux responsables de la majorité sur leur indignation à géométrie variable, monsieur Duhamel, puisque je vois que vous guettiez chacun des tweets de Jean-Luc Mélenchon, à quel moment ils ont été faits, après combien d'heures ou combien de minutes, après tel ou tel acte. Voilà, les choses, elles sont simples, elles sont claires. On a un principe à la France insoumise. Il est clair, il est précis, il a été dit à multiples reprises. La violence pour régler les conflits politiques, c'est jamais de notre côté.
Pour terminer là-dessus, je constate simplement qu'il y avait une différence dans les réactions entre François Ruffin, Alexis Corbière, vous-même, Mathilde Panot, et la façon dont Jean-Luc Mélenchon a réagi, donnant l'impression qu'il réagissait
sous
la pression,
mais vous pouvez répéter.
En mettant en cause l'antenne de BFM TV.
Et on a le droit, ça on a le droit.
Parfaitement, vous avez le droit, et on a le droit de vous répondre.
Vous avez le droit de me répondre, mais vous avez le droit à la fin de mon intervention. Mais vous avez le droit à la fin de mon intervention de re-répéter.
Non,
si vous voulez, ce que vous êtes,
vous nous mettez en cause,
on est en train de dire. Mais je suis pas en train de vous mettre en cause. Je dis juste que vous pointez et vous scrutez chacun des tweets de Jean-Luc Mélenchon, et je vois que vous faites pas preuve du même sérieux, de la même rigueur vis-à-vis des tweets du ministre de l'Intérieur.
On fait tout à fait preuve.
Eh ben, vous lui poserez la question de savoir combien de temps il va attendre pour réagir à l'agression du syndicaliste de Verbonne.
Pauline, une question sur le 8 juin. Sur le 8 juin, sur la proposition de loi, Lyotte.
Excusez-moi.
Qui doit être examiné, voilà, donc.
Qui doit être examiné le 8 juin. Excusez-moi, on change de sujet, donc. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, dit que si le débat est empêché sur cette proposition de loi, qui, je le rappelle, est déposée par le groupe centriste Lyotte à l'Assemblée et qui vise à abroger la réforme des retraites. Et donc, Mathilde Panot dit que si le débat ne peut pas se tenir, ce sera une déflagration, comme le 49-3. Qu'est-ce que ça veut dire, déflagration ? Est-ce que ça veut dire des manifestations ? Est-ce que ça veut dire la perspective de violence ? Est-ce que vous préparez quelque chose, une riposte, si jamais le débat ne peut pas se tenir ?
Il est évident que quand vous avez une situation de blocage, parce qu'on a une situation de blocage sur cette question des retraites aujourd'hui, la seule manière en démocratie de régler cette situation de blocage, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, aux parlementaires de voter, aux citoyens de voter, pourquoi pas, par référendum. Et si vous coupez petit à petit toutes les issues démocratiques qui permettent de sortir par le haut de ce conflit, bah clairement, ça va encore jeter de l'huile sur le feu. C'est une évidence. Maintenant, soyons clairs, le gouvernement n'a pas le pouvoir aujourd'hui d'empêcher le texte à l'Assemblée nationale de pouvoir être examiné.
C'est Éric Coquerel, président de la Commission des finances. Non, mais il aurait déclaré irrecevable.
Cette discussion est lunaire. Il y a quelques semaines, à l'Assemblée nationale, on a examiné une proposition de loi complètement ridicule pour pavoiser sur l'ensemble des mairies le drapeau européen. Cette proposition de loi, elle faisait peser une charge. Bon, eh ben, le gouvernement n'a pas dit on peut pas l'examiner parce que ça fait peser une charge. Voilà. À peu près l'ensemble des propositions de loi d'initiative parlementaire à l'Assemblée nationale.
C'est pas la même chose. C'est pas la même charge.
Mais 17 milliards d'un côté. Et...
Mais si vous voulez. Mais le raisonnement qui est celui aujourd'hui utilisé par Madame Borne pour dire que ce texte ne peut pas être adopté à l'Assemblée nationale.
Elle dit même qu'il est anticonstitutionnel.
Oui, ben on a appris que maintenant c'est Madame Borne qui dirige le Conseil constitutionnel. C'est sympa.
Quand vous parlez de déflagration, vous redoutez des violences?
Mais arrêtez, voilà, bah, regardez, vous continuez, vous recommencez.
Non,
vous
avez dit à
plusieurs reprises.
Le mot est
vous
ne
posez pas des questions, vous faites des procès d'intention.
Mais des déflagrations, ce n'est pas Bruno Jeudy qui a inventé l'expression.
Bah, oui, non, déflagration, ça sera une déflagration politique, c'est une évidence. Mais ce qui va être une déflagration politique, c'est si ce texte est voté. Parce que le pouvoir en place sera obligé d'en tenir compte. Et donc, moi, j'appelle l'ensemble des parlementaires à voter pour cette loi d'abrogation. Et j'appelle l'ensemble des gens qui nous écoutent à mettre la pression en se mobilisant, en manifestant massivement. Le 6 juin prochain, ça sera deux jours avant l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Soyons nombreux dans la rue.
Avant qu'il soit voté, il y aura un débat.
Oui.
Et dans la majorité, certains évoquent la possibilité de faire de l'obstruction. Un peu les méthodes que vous aviez utilisées pendant le débat sur la réforme des retraites, ça vous choquerait ?
Bah bien sûr que ça me choquerait.
Quand c'est eux, ça vous choque et quand c'est
non,
vous,
pas du tout, Bruno Jeudy. Mais il vous reste à comprendre la différence entre une niche parlementaire qui est la journée dans l'année, la journée dans l'année où un groupe d'opposition peut déposer un texte de loi. Non, chaque groupe d'opposition a une journée pour pouvoir déposer un certain nombre de textes de loi. C'est une journée qui commence à 9h et qui termine à minuit. Si le gouvernement fait de l'obstruction gouvernementale pour empêcher, alors ça veut dire qu'on n'a plus la possibilité d'avoir des niches parlementaires à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien à voir avec un débat qui dure pendant plusieurs semaines dans lequel on peut déposer un certain nombre d'amendements pour avoir un débat sur les sujets qu'on a envie de pouvoir discuter dans l'hémicycle.
Vous dites si cette proposition de loi est votée à l'Assemblée, ce sera une déflagration politique. Est-ce que c'est pas donner de faux espoirs quand même aux Français qui sont opposés à cette réforme des retraites ? Je vous cite quelqu'un qui est pourtant favorable à ce que le débat se tienne, c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui lui-même reconnaît ce matin dans le JDD avoir conscience que ce texte a ses limites. Pourquoi ? Parce que il semble très très invraisemblable que le Sénat donne suite et le vote, et donc ce serait finalement, on s'en tiendrait à un vote à l'Assemblée nationale.
Ah bon ? Mais vous connaissez quand même ici les institutions de la Ve République.
Oui.
Vous savez que c'est quand même l'Assemblée nationale qui a le dernier mot.
Mais simplement, il faut que c'est une inscription à l'ordre du jour.
Du Sénat, d'abord, qu'il examine.
Oui. Donc, la loi doit rentrer en vigueur au 1er septembre. C'est tout à fait impossible, improbable qu'au 1er septembre,
Loi soit abrogée. Ne commencez pas, si vous voulez,
Laurent Berger, opposant à la réforme des retraites. Et lui-même dit qu'il faut que cette PPL soit discutée. Et lui-même dit... avoir bien conscience de ses limites.
Je vais vous répondre. Si le texte est adopté à l'Assemblée nationale, il ira au Sénat, il pourra revenir à l'Assemblée, les discussions continueront. Mais en tout état de cause, si le texte est adopté à l'Assemblée nationale, alors ça voudra dire que non seulement le texte est rejeté par une majorité des Français, encore près de 70%, plus de 90% des actifs sont opposés à cette réforme des retraites. Non seulement il est refusé par l'ensemble des organisations syndicales, mais en plus, ça voudra dire qu'il est rejeté par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Et oui, je pense que le gouvernement devra en tenir compte, que le gouvernement devra reculer, parce qu'à un moment, on ne peut pas passer en force tout seul contre tout le monde.
Manuel Bompard, BFM TV a révélé cette semaine qu'un député insoumis, Carlos Martins Bilongo, était locataire d'un logement social tout en détenant deux appartements depuis 2018. Logement social qu'il a quitté en 2020, mais que sa sœur a continué d'occuper jusqu'à fin 2022 tout en lui versant un loyer. Il l'a reconnu à BFM TV. Carlos Martins Bilongo dit que tout est légal, mais d'un point de vue moral, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de choquant à garder un logement social quand on a pu acheter deux appartements en 2018 ?
Non, Carlos Martins Bilongo a dit quelle était la situation réelle. C'est-à-dire qu'il a occupé un logement social familial, qu'il a perdu d'abord sa mère, qu'il a ensuite perdu son père, et qu'il était dans ce logement avec sa famille, notamment avec ses sœurs, qu'ensuite il a pu acheter à un autre logement, qu'il a dû faire des travaux dans cet autre logement, que quand les travaux ont été faits dans cet
il
autre
fait,
logement...
Il a fait, juste pour
laissez-moi terminer.
Un investissement locatif et...
Laissez-moi terminer. Il a fait des travaux dans cet autre logement, et une fois qu'il a fait ses travaux dans cet autre logement, il a essayé de voir si le logement social, le bailleur a accepté qu'il soit attribué à sa sœur, ça, il a engagé des démarches sur ce sujet, et quand ces démarches n'ont pas pu aboutir, alors il a quitté ce logement social à la fin de l'année 2022.
4 ans après non, avoir acheté ces deux appartements.
Il y a eu d'abord des travaux, et ensuite il a essayé de faire en sorte... Il y a eu 2 ans de travaux et ensuite il a fait en sorte que sa sœur puisse occuper le logement social. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse ? Qu'il mette sa sœur à la rue, monsieur Duhamel ? Non. Donc il a essayé de faire en sorte.
Monsieur Bompard, il a essayé de faire en sorte. Pour ceux qui nous regardent, peut-être des gens qui attendent un logement social. Quand on a les moyens d'acheter 2 appartements, est-ce qu'on peut garder un logement social, même si
je vous ai répondu, Benjamin Duhamel, et je pense et je comprends tout à fait que dans une situation difficile comme celle qu'a vécu Carlos Martins Bilongo, qui a perdu ses 2 parents, qui s'est retrouvé à habiter avec sa sœur dans le logement social, il a essayé de trouver une solution pour
d'accord,
sa
sœur. Je trouve moral, ça tout à fait raisonnable. Bompard,
maintenant,
il y a 2,5 millions
attendez,
de personnes.
Laissez-moi terminer.
Qui ont fait des
je vais répondre
de
à votre question
pays.
Parce que je sais quelle est la question qui vient derrière. C'est la question de la situation du logement social. Panko, discutons-en.
Discutons-en, Benjamin Duhamel, parce que moi, je dis ce que j'ai envie de dire.
Donc, si la difficulté du logement social, Benjamin Duhamel, je suis en train de vous répondre.
Moralement, quand on parle souvent du mal-logement, Bruno citait le chiffre de 2,5 millions de personnes qui l'attendent, encore une fois, est-ce qu'il est raisonnable de garder un logement social quand on a les moyens d'acheter un appartement ?
Je vous ai répondu, il est normal qu'il quitte son logement social, il a d'abord fait des travaux et ensuite il a essayé de trouver une solution pour que sa sœur puisse occuper ce logement social, ce que je trouve tout à fait normal. Maintenant, si vous voulez parler du problème du logement social en France, qui est effectivement extrêmement problématique, je vais vous dire, le responsable, il s'appelle pas Carlos Martins Bilongo. Le responsable de la difficulté du logement social aujourd'hui, il s'appelle Emmanuel Macron et il est au pouvoir. Et c'est pas seulement moi qui le dis, puisque l'ensemble des acteurs du logement social ont parlé ces derniers temps qu'en matière de logement, on était face à une bombe sociale et économique. C'est pas moi qui le dis. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin aujourd'hui de 4 ans en moyenne pour avoir accès à un logement social, de 8 ans dans une ville comme celle de Marseille, qu'il y avait des objectifs, monsieur Duhamel, de construire 120 000 logements sociaux l'année dernière. Combien on en a fait ? Combien on en a fait, monsieur Duhamel ?
Non, mais attendez.
Combien on en a fait ?
De logements sociaux ?
Oui.
Non, mais attendez.
On en a fait 90 000. On n'est même pas sur les objectifs qui avaient été posés. Voilà la difficulté du logement social.
À aucun moment, il n'y aurait.
Mais je vous ai répondu 10 fois. Vous pouvez me poser 10 fois la même question. Je vais vous répondre de la même manière, Benjamin Duhamel.
Tout va bien.
Maintenant, puisque vous amenez le débat sur la question du logement social, je vous ai répondu. Le gouvernement en place a une très lourde responsabilité dans la difficulté auquel est confronté le secteur du logement social en France aujourd'hui. Et je mets sur la table un certain nombre de propositions. Il faut augmenter le pourcentage de la loi LRU pour faire en sorte que ça soit 30% dans les zones qui sont les zones tendues. Il faut augmenter les sanctions pour les communes qui ne respectent pas la loi.
Très bien,
voilà ce qu'il faut faire en matière de logement social.
Une question de Pauline.
Sur cette affaire, toujours. Est-ce que si la même chose était arrivée à un député Rassemblement National, Les Républicains, voire de la majorité, est-ce que vous auriez eu la même mensuétude, la même compréhension vis-à-vis
vous
de ce qui
lui était arrivé ? Vous me posez 10 fois la même question, ne cherchez pas, je vous dirai toujours la même chose sur ce sujet. Maintenant, je vais vous dire, je considère et je trouve que la cabale qui est menée contre Carlos Bilongo, elle est insupportable.
Montée par qui ?
La semaine,
une cabale, ça a des instigateurs.
Écoutez, quand Carlos Bilongo, il y a 10 jours de ça, publie son livre, puisqu'il vient de publier
absolument
un livre pour raconter son histoire.
Français.
Et que le jour même de la publication de son livre, on apprend qu'il y a des fuites dans la presse qui viennent jusqu'à...
C'est la théorie du complot ? C'est le cabinet noir ?
Non, c'est pas une théorie du complot, mais ça vous interpelle pas que une soi-disant signalement qui aurait été fait à Tracfin au mois de mars viennent être publiés dans la presse le jour de la sortie du livre de Carlos Bilongo. Ça vous pose pas de questions. C'est une théorie du complot de s'interroger sur cette coïncidence. Non, je considère que Carlos Martins Bilongo fait l'objet d'une cabale et je voudrais vous mettre en garde et vous dire de faire
pas
attention.
Pas d'une cabale, monsieur Bompard. Tous les députés font pas l'objet d'un signalement de la part de Tracfin pour soupçon de protestation et de blanchiment
aujourd'hui.
Non, il ne l'est pas.
C'est une enquête.
Non, mais le responsable du mouvement insoumis que vous êtes peut s'interroger sur le fait est-ce que monsieur Bilongo ne doit pas être mis à l'écart.
Vous voulez une demi-heure sur le sujet. Je vous ai répondu sur Carlos Bilongo et je vous ai dit que le problème du logement social aujourd'hui en France, c'est pas Carlos Bilongo, c'est Emmanuel Macron.
Monsieur Bompard, un dernier mot politique sur François Ruffin. Il a été plus ou moins adoubé par Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il était prêt. Lui n'a pas l'air très enthousiaste. Il dit que c'est pas le moment. Et en même temps, on voit bien qu'il se prépare. Ce serait un bon candidat pour 2027, François Ruffin.
Monsieur Duhamel, d'abord, dans notre formation politique, on n'adoube pas Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas adoubé. Il a dit que François Ruffin avait progressé, qu'il était prêt et que c'était une bonne nouvelle. Et il a raison. Et moi, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a émis le souhait d'être remplacé. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il a dit faites mieux. Eh ben, on va essayer de faire mieux. Et François Ruffin va y participer, j'en suis certain.
Il a des qualités pour être un bon candidat en 2027. Mais on voit dans les sondages.
Franchement, Benjamin Duhamel, il a plein de qualités. Je ne sais pas ce que ça veut dire moins clivant. Lui-même, d'ailleurs, a répondu dans une note de blog qu'il a publiée ces derniers temps sur le sujet, parce que je crois qu'il n'a pas l'intention d'être votre chouchou. Mais pour le reste.
L'idée, ce n'est pas d'être votre chouchou ou pas. L'idée, c'est qu'il dit aussi dans cette note de blog
Précisément. Maintenant, Benjamin Duhamel, franchement, moi, j'aime beaucoup François Ruffin. Il a plein de qualités, mais on est en 2023. L'élection présidentielle, elle est en 2027. Souffrez qu'on soit pas encore aujourd'hui à déterminer qui est notre candidat. Moi, je crois au fait que la NUPES doit continuer à avancer, progresser, qu'elle doit le faire.
Il y a Michel Houellebecq qui dit que c'est la seule personne sympathique chez les Insoumis.
Bon, ben, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui, ça. Mais on verra. Écoutez, franchement, on n'en est pas là aujourd'hui. Et maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment la NUPES, elle progresse, comment la NUPES, elle est l'alternative face à un macronisme qui est déclinant et face à une extrême droite qui menace. Et pour ça, on a besoin de la nouvelle Union populaire et écologique et sociale.
Un petit mot sur votre parti, la France Insoumise. 300 militants lancent un appel à une 6e République au sein de la France Insoumise. Ils vous ont écrit directement, à vous, personnellement, et dénoncent une absence totale de démocratie. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Non, mais d'abord, la France Insoumise, c'est 360 000 personnes
et qui sont... Vous leur avez
300 militants qui prennent la plume, ce n'est pas rien.
Directement, avec trois questions en même temps. Donc d'abord, je dis que la France Insoumise, c'est un mouvement avec 360 000 personnes qui militent au quotidien. C'est un mouvement qui se construit progressivement. Il est né en 2017 et qui avance et qui se structure en avançant. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est un mouvement, c'est pas un parti politique.
Vous leur avez répondu ou pas?
Non, pas encore, mais je vais vous répondre. Il n'y a pas de problème. Pour le reste, le courrier, il a été envoyé à moi, pas à vous. Donc, si j'ai envie de leur répondre, je leur répondrai à eux, pas à vous.
Ça nous intéresse de savoir si vous leur avez répondu ou pas.
Vous n'avez pas trop envie, quoi.
Pour le reste, attendez, soyons très clairs. La France Insoumise, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Merci. Donc, ils se dotent de moyens de s'organiser qui sont différents de ceux des partis politiques traditionnels. Donc, on peut discuter, débattre, mais par contre, on restera un mouvement. Ça, c'est très important. C'est pas seulement ce que moi je pense, mais c'est ce à quoi sont attachés les militantes et les militants de la France Insoumise.
Merci Manuel Bompard, c'est la fin de BFM Politique. Vous retrouvez tout de suite Affaires Suivantes, Dominique Rizet, Philippe Godin. Belle journée sur BFM Télé.